L'Impact de Montréal est en préparation pour son duel de demain, alors que ces derniers feront face à l'adversaire ultime, le Toronto FC. Pour en parler, Jérémy Filosa est avec nous. Salut Jérémy.
Salut.
Bon, écoute, là, c'est une question d'attitude, c'est une question est-ce que je pourrais dire d'orgueil et d'honneur, ce match-là, face au Toronto FC?
Ben, définitivement. Quand t'affrontes le Toronto FC, tu veux jamais perdre. C'est ton ennemi juré. Et là, ben, on le sait, on fait face à de l'adversité. On est dernier dans notre groupe. Oui, il y a la chaleur et tout ça. Sauf que t'as l'adversaire devant toi contre qui tu veux jamais perdre. Et normalement, dans ce type de match-là, c'est rare qu'une des deux équipes ne se présente pas pour jouer. C'est une des très bonnes rivalités de la MLS. Moi, je la mets au même niveau que Los Angeles, Los Angeles. Bien sûr, version canadienne et tout. Mais l'Impact ne veut pas demain soir, dans un scénario où ils ont eu 8 jours pour se préparer, se faire planter par Toronto FC 3-0. On s'entend là-dessus, là.
Ben, clairement, mais c'est une question aussi d'attitude sur le terrain, parce que dans le premier match face aux Révolutions de la Nouvelle-Angleterre, le niveau de compétition n'y était pas du tout, là.
Non, exactement. Premièrement, le niveau de cohésion était pas là et ça a fait en sorte qu'à un moment donné, le niveau de compétition a aussi pris le bord. Les gars ont un petit peu abandonné à ce niveau-là. Mais contre Toronto, demain, on s'entend, là, l'Impact est négligé dans ce match-là. Mais ils doivent travailler plus fort. Ils ont été capables dans le passé de battre le Toronto FC dans des situations de match extrêmement cruciales. Finale du championnat canadien l'année passée, ils se sont tenus, ils ont défendu et ils ont été capables de passer au travers. Donc, c'est pas comme s'ils sont pas capables. Et l'avantage d'avoir eu 8 jours pour se préparer, c'est quand même un avantage clair, net et précis. Là, on parle d'un groupe de joueurs de l'autre côté qui a pas joué depuis 4 mois et qui, là, doivent se relancer sur le terrain 3 jours plus tard seulement. Faut dire qu'il y a des gars comme Josie Altidore qui n'ont pas joué le premier match, peut-être qu'on le ménageait pour le match contre Montréal, ça c'est pas impossible, mais il n'y a aucune raison de pas au moins rivaliser avec l'adversaire dans ce match-là.
J'imagine que dans le vestiaire de l'Impact, tout le monde est au même diapason, on veut absolument offrir une bonne performance parce que c'est un match sans lendemain, on a l'impression que c'est un match sans lendemain.
Ouais, ben oui, quand on y pense comme ça, on se dit tout le monde devrait être sur la même page. Vous allez entendre dans quelques instants 2 extraits de joueurs de l'Impact qui voient pas tout à fait les choses de la même manière. D'ailleurs, j'ai posé la question à Romel Kyoto ce matin, est-ce qu'il était à 100% et est-ce qu'il est prêt à débuter un match? Parce que hier, vous vous souvenez, dans ma conversation avec Thierry Henry, je lui ai posé la question, il a dit « Ouais, mais il y a des choses que vous savez pas par rapport à certains joueurs. » J'avais nommé Kyoto, donc je me suis dit « Ben, peut-être qu'il est blessé, peut-être qu'il est pas à 100%. » Il m'a dit ce matin que lui, il était prêt à partir ce match-là. Il n'y a aucun pépin physique ni mental. Maintenant, j'ai posé la question aux 2 joueurs, Romel Kyoto et aussi Yuka Raitala, le capitaine. Le niveau d'importance de gagner ce match-là, on les écoute et je traduis tout de suite après.
We need to fight. We have to win this game because it's a really important game for us because we need to qualify.
I don't think it's a must win, you know. We want to win, so it doesn't matter which game it is. And obviously, tomorrow is a special game, it's a derby game. It's a unique situation without any fans. But obviously, we're gonna go and do our best and try to win.
Donc, dans le cas de Romel Kyoto, il dit. On peut pas perdre ce match-là, sinon on est dans le trouble, on pourrait ne pas se qualifier. Dans le cas de Yuka Raitala, le capitaine, il dit, c'est pas un must-win. Il dit, c'est sûr qu'on veut se présenter, on veut jouer un bon match, c'est notre adversaire direct, c'est notre rivalité naturelle, mais je sais pas si Raitala fait peut-être référence à ce qu'on a vu, par exemple, hier. Parce que on a vu que hier Orlando a battu NYCFC, Philadelphie a battu Miami. Ça veut donc dire que dans le groupe à côté, t'as 2 clubs à 0. Fait que Raitala, lui, il se dit peut-être, écoute, on fait match nul, on est déjà en avance sur les deux équipes qui ont 0 dans le groupe à côté. Donc techniquement parlant, c'est pas impossible que tu perdes ce match-là. Ou que tu fasses match nul et que tu sois pas éliminé sur le champ. Sauf que là, tu vas avoir besoin d'aide.
Ouais, mais là, attends une petite minute, là. Je comprends l'explication de Raitala, mais si on regarde le jeu de Raitala dans le premier match, face aux Révolutions de la Nouvelle-Angleterre, je pense que lui devrait peut-être s'en mettre un petit peu plus de pression et augmenter son niveau d'intensité. On a beau dire que c'est pas un must win, mais mon Dieu, on doit amener un petit peu plus sur le terrain, là.
Tu sais que les Finlandais sont cool, hein? Je veux dire, on n'a qu'à penser à Saku Koivu, Kimi Raikkonen en F1. C'est pas des gars qui perdent le contrôle de leurs émotions très, très, très rapidement. Et Raitala fait partie de ce groupe-là aussi. Donc, pas trop trop stressé, mais en même temps, tu as raison de le mentionner, que il doit lever son jeu d'un cran. Sauf qu'il faut comprendre aussi que Raitala en était à un premier match depuis sa fracture au pied au printemps. Moi, je pensais même pas honnêtement qu'il allait être partant dans ce match-là à cause de cette situation-là. Mais clairement, Thierry Henry lui a fait confiance. Maintenant, on a hâte de voir s'il sera du 11 partant de demain. Peut-être qu'on donnera un départ à Jorge Corrales qui joue la même position que Yuka Raitala. On verra. Mais c'est sûr que on veut pas se retrouver demain soir à être toujours dernier du groupe avec zéro point, parce que là, ça va chauffer pas à peu près. Là.
Non, puis j'ai hâte d'entendre le point de presse de Thierry Henry après la rencontre de demain. Si son club arrive puis ne performe pas, n'a pas le niveau de compétition, écoute, souviens-toi quand tu le questionnais après le match sur le schéma tactique, puis il a dit, tu sais, t'as beau faire n'importe quoi, quand les joueurs compétitionnent pas, ça sert absolument à rien, là.
Non, écoute, il a raison qu'en grande partie, dans le dernier match, c'était pas le schéma tactique le gros problème. C'était le niveau de compétition et surtout la nervosité que les joueurs ont démontré sur le terrain, balle au pied. Après ça, tu peux commencer à parler un petit peu de tactique, mais je pense que Thierry, demain, va vouloir aider son équipe en ce sens-là, va vouloir simplifier les choses. J'ai pas l'impression qu'on va voir demain des joueurs jouer hors position. On a essayé ce test-là, ça a pas fonctionné, et je pense qu'à partir de demain, on va mettre les gars dans les bonnes chaises, quitte à peut-être en laisser un ou deux qui sont normalement des partants sur le banc et que peut-être que ces joueurs-là peuvent embarquer en deuxième demi, on verra. Mais clairement, on en a parlé un petit peu toute la semaine, il y a des joueurs qui se sont marchés un petit peu sur les pieds, on n'était pas sûr exactement où se positionner et je pense qu'à ce niveau-là, Thierry Henry va vouloir simplifier les choses pour le match de demain. Là.
Dans un match à haut niveau d'intensité comme un match entre l'Impact et le Toronto FC, est-ce que Samuel Piette peut se permettre de ne pas débuter le match quand tu as besoin de cette intensité-là en milieu de terrain?
C'est sûr que pour moi, le fait que Thierry Henry ait décidé de garder Samuel Piette dans le 11 partant, mais à une autre position, me prouve à quel point il veut l'avoir dans son line-up. Mm-hmm. Tu sais, quand t'es prêt à tasser quelqu'un d'autre de sa position naturelle pour mettre un gars comme lui, c'est parce que Thierry Henry reconnaît le désir de vaincre de Samuel Piette, son acharnement au travail sur le terrain, et il sait que c'est un exemple à suivre pour les autres. Et il a été prêt à le déplacer pour le garder dans son alignement partant. Maintenant, est-ce que ce sera le cas pour le match de demain? Je le sais pas. Mais une chose est certaine, il n'y a pas un joueur dans ce vestiaire-là qui va vouloir, on va utiliser l'expression de hockey, plus manger les bandes que Samuel Piette contre l'ennemi juré, le Toronto FC. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Tu sais que ça me va tout donner sur le terrain demain. Donc, est-ce que Wanyama débute le match sur le banc? Est-ce qu'on change de schéma tactique pour permettre peut-être à un Piette de retrouver sa position naturelle et déplacer un peu plus en avant un Wanyama qui, selon moi, va être un gars qui va être plus facilement, va s'adapter plus facilement à un rôle un peu différent qu'un gars comme Samuel qui, on va le dire, c'est un gars quand même unidimensionnel dans son style de jeu.
Oui, sauf que c'est un guerrier qui est imprégné de cette rivalité face à Toronto.
Exact.
Si tu veux augmenter ton niveau d'intensité, tu peux pas te passer de ça sur le terrain. Surtout, faut que tu le mettes dans la position où il est capable de t'en donner davantage, ce qui n'était pas le cas dans le dernier match. Là.
Mais et je suis certain que Thierry Henry va prendre tous les facteurs que tu viens de mentionner en considération avant de prendre sa décision finale.
Bon, ce soir, il y a un duel Vancouver qui affronte San Jose. Premier match pour Vancouver. Et l'entretien hier avec Marc Dos Santos, c'était du bonbon, un bijou. Quelle honnêteté de la part de Marc Dos Santos en disant « Nous, c'est extrêmement difficile ce qui se passe avec cette pandémie. On est arrivé ici avec des joueurs en moins, mais on doit quand même compétitionner. »
Exactement. Et Marc Dos Santos, je voudrais le remercier parce que hier, là, j'ai envoyé un message au Whitecaps. Ça n'a pas pris une heure. Tout était réglé déjà pour l'entrevue avec Marc Dos Santos qui avait sûrement 56 000 autres choses à préparer à la veille de son premier match. Mais c'est sûr que ce sera pas facile pour les Whitecaps. 5 joueurs manquants. Lucas Cavallini, le joueur étoile qu'ils viennent aller chercher à coût de 5 millions de dollars, malheureusement, n'y sera pas. On en a parlé un peu hier. Il a perdu 2 membres de sa famille. Mais il y a plusieurs autres membres aussi qui seront absents. Donc, ils ont été très affectés, les Whitecaps. Leur groupe a changé. Les dates des matchs ont changé. Le départ a été retardé à cause de certains cas non concluants de tests de COVID. Donc, il arrive là-bas avec un paquet de casse-tête en tête. En tout cas, il y a une chose qu'il n'aura pas besoin de se casser la tête. C'est son gardien partant, Maxime Crépeau, qui va être devant la cage de son équipe ce soir. Et les Whitecaps, eux, ont l'avantage d'avoir vu toutes les équipes jouer. Ils ont du vidéo sur tout le monde. Ils savent exactement à quoi s'attendre des Earthquakes ce soir. Chose qu'aucune autre équipe dans ce tournoi-là a eu l'avantage de faire. Donc, on va se croiser les doigts en espérant qu'ils puissent en profiter. Mais on a donc hâte de revoir Maxime sur le terrain pour voir s'il peut recommencer, repartir là où il avait laissé la saison dernière.
Est-ce que Marc Dos Santos a dit que c'était un vol d'avoir été chercher Crépeau à l'Impact?
Il a dit, avec tout le respect que je peux avoir pour l'Impact de Montréal, je veux pas leur manquer de respect, mais c'était un sacré vol. Écoute, je veux dire, ils ont ramassé un gars qui appartenait à l'Impact, qui avait fait tous les niveaux à l'Académie de l'Impact depuis qu'il avait 13 ans pour 50 000 $. On parle du joueur le plus utile de son équipe la saison précédente en USL à Ottawa. Il arrive à Vancouver. Il connaît une saison où il est la recrue de l'année dans son équipe, joueur le plus utile dans son groupe. Et en plus, on lui offre une prolongation de contrat à long terme pour demeurer à Vancouver. Lui qui était déjà sous contrat, donc on n'était pas obligé de le faire. Et écoute, je pense que Maxime Crépeau, dans les faits saillants de match la saison dernière, pour les arrêts les plus spectaculaires, c'est lui qui doit en avoir le plus. Parce que on l'a vu tellement souvent sortir des arrêts vraiment miraculeux que c'est sûr que pour les Whitecaps, tu vas chercher un gardien partant dans cette ligue-là qui a pas l'étiquette de joueur étranger puis qui te coûte des peanuts. C'est de l'or en bord. C'est un cadeau que Montréal leur a fait.
Comme
un
quoi,
cadeau.
Comme quoi, nul n'est prophète en son pays. Ça vaut pour Maxime Crépeau. Maintenant, bilan là, du côté de ce tournoi MLS SBAC, point de vue COVID-19, on en est où là?
Ben écoute, on a des bonnes nouvelles, hein, parce que après un début de tournoi extrêmement difficile avec l'abandon de Dallas et de Nashville avec des cas jour après jour, on a été extrêmement inquiétés, mais depuis ce temps-là, faut dire que ça va bien. Dimanche a été une journée cruciale pour la MLS. On vous rappelle les faits, un joueur de DC et un joueur de Toronto se retrouvent avec des tests non concluants. On sait particulièrement bien que ces deux tests-là risquent d'être négatifs, mais la machine dit non concluant. Et là, on décide de suspendre le match à la dernière seconde, le reporter au lendemain pour s'assurer que ces deux joueurs-là étaient bel et bien négatifs. Heureusement, ça a été le cas. Et là, ben, on nous annonce aujourd'hui que depuis dimanche, depuis ces fameux tests-là, aucun joueur parmi les 1200 joueurs qui ont été testés n'a testé positif dans les 24 équipes qui sont toujours dans le tournoi. On a effectué plus de 1500 tests. Il n'y a qu'un seul individu de plus qui a été infecté. On parle d'un joueur qui est avec une des deux équipes, Nashville ou Dallas, on ne sait pas laquelle, qui lui aussi a été infecté, mais ces joueurs-là demeurent en quarantaine à Orlando et on ne sait pas exactement quand est-ce qu'ils vont pouvoir quitter là.
En terminant, on connaît maintenant les dates pour la Coupe du Monde au Qatar.
Ouais, exactement. La FIFA ce matin a envoyé un communiqué. Écoute, on est rendu avec le monde à l'envers. La Ligue nationale de hockey joue au mois d'août. La Coupe du monde va se gagner au mois de décembre en 2022. Écoute, là, on comprend plus rien. Donc ça va commencer le 18 le 21 novembre, pardon, à 13h et bien sûr, ce sera le pays local, le Qatar, qui va recevoir le premier match. On verra qui sera leur adversaire. Les matchs vont être disputés à 13h, 16h, 19h 22h. Ça veut dire quoi ça pour nous au Québec? Il va falloir se lever tôt un petit peu, 6h du matin, 9h, midi et 15h. Donc ça, c'est les heures, bien sûr, pour les matchs. La Coupe du Monde va se gagner le 18 décembre, donc une semaine pile avant Noël. Ça, c'est en 2022 et ce sera le dernier tournoi de la Coupe du Monde qui va se jouer à 32 pays parce que à partir de la Coupe du Monde de 2026, qui notamment va se disputer au Canada aussi, ben ce sera 48 équipes qui seront invitées.
Non, mais t'imagines si on avait fait la Coupe du Monde au Qatar en plein été. Écoute, si on avait misère à Orlando parce qu'il fait 30-32 avec ça. Un humidex à 85%, t'imagines, au Qatar, c'est juste impensable. C'est mieux que ça soit en automne puis en hiver.
des pauses d'hydratation, je pense qu'on en aurait eu pas mal. Écoute, hier, j'ai regardé le match là en fin de soirée, ils ont rajouté 10 minutes à la deuxième demi. Tu sais, à un moment donné, ça finirait plus de finir. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé le mois de décembre.
Bon, ben Jérémy, c'est déjà tout pour nous. Puis on se parlera demain, évidemment, parce qu'il y aura ce duel entre le Toronto FC et l'Impact de Montréal. On espère une bonne performance de la part de l'Impact. On a besoin de ça, voilà. Ça c'est sûr et certain. Merci, Jérémy, d'avoir été avec nous.
Ça me fait plaisir. À demain. Salut.